12h30, 13h, François Claus sur Europe 1.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand journal de la mi-journée sur Europe 1. Bonjour Marlène.
Et bonjour François.
Le Paris Saint-Germain, roi de l'attaque sur la pelouse, contraint de se défendre sur le tapis vert. Quelques minutes après une 12e victoire en 12 matchs de championnat, la direction répond aux accusations de Mediapart. Nous entendrons Jean-Claude Blanc et nous analyserons ses propos au regard des révélations de Football Leaks saison 2. L'émotion était grande hier à Besançon pour rendre hommage, trois jours après, à cette jeune femme afghane, poignardée en pleine rue. On apprenait quelques heures plus tard que le principal suspect, son mari, en fuite, était arrêté en Grèce. Tiens, revoilà Obama, toujours aussi fringant, l'ex-président en meeting cette nuit en Floride pour tenter de contrer un Trump qui fait feu de tout bois. L'envoyé spécial d'Europe 1 était sur place. Pourquoi les Républicains engagent-ils le combat contre la PMA? Nous entendrons Bruno Retailleau avant une grande page politique, car il est le témoin de la semaine. Le politologue Jean-Daniel Lévy commentera avec nous les difficultés dans les sondages d'Emmanuel Macron et le soudain retour dans l'espace médiatique de l'ancien monde. 12h42, le journal des sports, un Italien qui présente ses excuses et un Bercy en ébullition avant une demi-finale aux allures de finale Federer-Djoko. Et puis la météo détaillée, évidemment, de Valérie Darmon en ce vrai week-end d'automne comme on les aime, du froid et de la lumière.
Europe 1.
Mais avant de développer tous ces titres, un témoignage très fort, c'était sur Europe 1 ce matin à 8h15 avec Bernard Poirette. Olivier Savignac avait 13 ans en 1993, il participait à un camp de vacances dans les Pyrénées lorsque sa vie a basculé, victime d'un prêtre pédophile. Il sera aujourd'hui à Lourdes pour s'exprimer devant les 118 évêques de France qui, sous la pression des 211 témoignages de victimes de prêtres pédophiles recensés en France depuis 2017, accueillent pour la première fois des victimes.
Ma jeunesse s'est arrêtée sur son lit, oui. Parce que ce prêtre, sous prétexte d'une visite médicale, enfin d'un contrôle d'une fiche sanitaire d'entrée au camp, m'a fait baisser le pantalon, m'a fait baisser le slip. S'est assis sur le lit alors que moi j'étais allongé et a commencé ses palpations à ausculter mes parties génitales et ça durait 1 minute 30. Du coup j'ai réalisé à ce moment-là que c'était vraiment pas normal, qu'il y avait un certain viol de mon intimité et en plus de le voir au-dessus de moi qui devenait tout rouge, qui soufflait, ça a été quelque chose de très très perturbant. Et quand on fait ça à des enfants, à des jeunes, on leur casse leur foi, on leur casse leur spiritualité. C'est des gens qui sont triplement brisés, et dans leur âme, et dans leur corps, et dans leur foi. Alors aujourd'hui, juste par morale, et puis par devoir civique et par devoir chrétien, s'il vous plaît, parlez. Vous ne risquez rien, mais parlez. Voilà où il est le message, ce qu'on va dire tout à l'heure aux évêques. Moi, ce que je dirais en substance, avec ma foi de catholique, et surtout mon espérance, même à minima, si je me dis voilà que l'Église est mal embarquée, mais mon espérance en cette Église qui doit rebondir.
Vous pouvez entendre l'intégralité de ce témoignage sur le site d'Europe 1.
Europe 1, 12h34, la suite du journal, François Claus.
Considéré comme le principal suspect, recherché par toutes les polices, le mari de Razia, cette jeune femme afghane de 34 ans, tuée de 8 coups de couteau en pleine rue à Besançon mardi dernier, a été arrêtée cette nuit en Grèce. Mère de 3 enfants, séparée de son mari, qu'elle accusait de violence conjugale, le destin de Razia avait ému toute la France. Plusieurs centaines de personnes lui rendaient hommage hier soir, quelques heures avant l'arrestation du mari recherché.
Je suis complètement bouleversée par ce qui s'est passé. Révoltée, révoltée. Je l'imagine sur le trottoir. Je ne peux pas supporter ces images. Le vendredi, avant d'être assassinée, je l'avais en cours. Elle m'a dit un petit peu que son mari commençait à s'approcher et elle m'a montré la photo de son mari. Et j'apprenais quelques jours après qu'elle était assassinée.
Ça n'arrête pas, quoi. Ça continue toujours, toujours et toujours. Et il y a toujours des mobilisations, mais ça ne suffit jamais, quoi. C'est un cas qui a remué pas mal de gens parce que il y a l'histoire des plaintes, la justice qui fait pas son boulot, la police qui a pas le temps. Mais ça arrive tous les jours, quoi. Enfin, tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt, quoi. C'est terrible, quoi.
L'émotion de ces témoins, témoignage recueilli par Charlotte Bechler. Et là, la police, eh bien, elle a fait son travail. Coopération des polices européennes, arrestation du principal suspect à l'heure où nous parlons. Évidemment, du mari recherché, le procureur de Besançon s'exprimera sur l'enquête lundi. C'était hier soir, quelques minutes après une 12e victoire en 12 matchs de championnat face à Lille. On y reviendra tout à l'heure dans le journal des sports. La direction du PSG a tenu à réagir très vite aux révélations dans l'après-midi de Mediapart et d'une quinzaine de médias européens qui ont décrypté pendant de longues semaines des millions de documents confidentiels. Ce sont les fameux Football Leaks, des documents qui révèlent que le club qatari aurait joué d'un dopage frauduleux de ses comptes pour échapper aux règles, aux sanctions du fair play financier, avec la complicité des dirigeants de l'UEFA qui ont eux-mêmes instillé ce fair play financier. Cette règle, rappelons-le, qui interdit aux clubs de dépenser plus d'argent qu'ils n'en reçoivent. Le directeur général du PSG, Jean-Claude Blanc, lui réfute ces accusations, évoque au contraire une négociation transparente avec l'UEFA.
Nous sommes très sereins. La manière de fonctionner du club, c'est vraiment de travailler en toute transparence avec l'UEFA. On l'a fait depuis 7 ans. On a expliqué, mis sur la table l'ensemble de nos contrats, qu'ils soient d'origine du Qatar ou d'autres. Mais manifestement, le souhait de grandir, de vouloir grandir très vite, de vouloir rejoindre un club fermé de quelques grands clubs, c'est difficile, voire impossible, puisqu'on ne vous autorise pas à investir. Et pour vous permettre d'essayer de rattraper ceux qui font la course devant depuis pas mal d'années, finalement.
Le directeur délégué du PSG, Jean-Claude Blanc. Bonjour Julien Froment.
Bonjour.
C'est vous qui avez recueilli hier soir ce témoignage au Parc des Princes. Alors on sent poindre l'argument, notamment dans les derniers propos. Il y a des grands clubs qui sont là. Nous, on est un nouveau club. On veut investir. On nous interdit d'investir. Nous, les nouveaux conquérants du foot européen. Le problème, Julien, c'est que cette défense, au regard des règles définies par l'UEFA elle-même, ne semble pas tenir.
Oui, car pour justifier ces dépenses, le Paris Saint-Germain a signé un contrat avec l'Office du tourisme du Qatar, 215 millions d'euros par an sur 5 ans, mais en relisant les documents cités par Mediapart, il n'y a pas de réelle contrepartie justifiant ce montant astronomique qui a permis, pour rappel, au club de dépenser entre 400 millions d'euros sur Neymar et Mbappé. Et Mediapart, de citer cet exemple, le PSG a préféré faire une de ses tournées hivernales à Marrakech au Maroc plutôt qu'à Doha. Résultat, le contrat a été largement décoté par l'UEFA, passant de 215 millions d'euros à un peu moins de 3 millions d'euros par an. D'après Mediapart, les dirigeants parisiens ont alors négocié un accord secret avec les hautes instances de l'UEFA, à l'époque Michel Platini et Gianni Infantino, pour ne pas être sanctionnés par le fair play financier, car le risque majeur, c'était à l'époque d'être exclu de la Ligue des Champions, la principale source de revenus du club. Des rendez-vous et accords secret étayé par les échanges de mails dévoilés par les Football Leaks. Alors depuis, les hommes ont changé. À l'UEFA, en septembre dernier, l'instance européenne a demandé un réexamen approfondi de la situation financière du club français par la chambre de jugement. Cette même chambre, François, qui avait blanchi à deux reprises le PSG en 2014 et en 2017.
Il devra peut-être se déjuger ou au contraire confirmer son point de vue. Merci Julien Froment. On vous retrouve dans quelques instants pour le journal des sports.
Europe 1.
Dans un instant, Marlène, direction la Floride, Obama. Oui, Obama était en meeting hier soir.
12h38. Il est 12h40, la suite du journal, c'est avec vous François Claus.
Et nous partons pour les États-Unis. Nous sommes maintenant à 3 jours des élections de mi-mandat, celles qui permettent aux Américains de voter pour leur Parlement et pour lesquelles Donald Trump, élu il y a 2 ans, espère garder sa majorité. Trump qui multiplie les meetings côté démocrate. Barack Obama est monté en personne, lui-même, sur le devant de la scène. Meeting hier soir en Floride, devant l'envoyé spécial d'Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est à vie leur président. Les démocrates n'ont jamais trouvé mieux qu'un discours d'Obama pour rebooster leurs troupes. Dans la foule, des blancs, des noirs, des hispaniques, beaucoup de jeunes et aussi quelques opposants venus tenter de perturber le discours. Pourquoi sont-ils toujours autant en colère alors qu'ils sont au pouvoir, ironise l'ancien président, avant d'attaquer frontalement son successeur sans le nommer.
Ils vous mentent, ils inventent des choses. C'est ce qui se passe pour terrifier, avec quelques pauvres réfugiés à 1000 km, quand la vérité n'a plus de valeur. Et c'est ce qui arrive au plus haut niveau. Alors la démocratie ne marche plus. Votez !
De l'énergie, voilà ce qu'il nous donne, jubile cette militante. À la sortie, Mary s'assure que chacun a bien voté et emmène qui veut au bureau de vote anticipé qui a déjà ouvert.
Avec tout ce qui se passe, les gens voient bien ce qui arrive quand on ne vote pas. Ils réalisent que leur voix compte vraiment, ils vont voter.
Mobiliser la base, les jeunes, les minorités, les quartiers populaires, voilà l'enjeu de ces tout derniers jours de campagne pour les démocrates, reconquérir toutes ces voix qui leur avaient manqué il y a 2 ans lorsque Donald Trump avait remporté la Floride. Miami, Sébastien Krebs, Europe 1.
Et ce qui fut justement l'un des grands succès d'Obama, eh bien, a été rayé d'un trait de plume, confirmation que l'accord sur le nucléaire iranien serait évidemment obsolète à partir de lundi. C'est Donald Trump qui l'a confirmé hier. En France, Édouard Philippe persiste et signe hausse des carburants. Bien sûr, c'est compliqué, mais il n'y a pas le choix. Pas sûr que ça calme la colère avant la grande manifestation prévue le 17 novembre prochain. C'est une tribune signée dans le Figaro de ce matin par plusieurs des dirigeants des Républicains, Laurent Wauquiez en tête. Il faut s'opposer, coûte que coûte, à la PMA sans père, procréation médicalement assistée. Bruno Retailleau sur Europe 1 nous dit pourquoi.
La question que pose la PMA, elle est assez simple. Avoir un enfant est-il un droit ? Nous n'y sommes pas favorables pour des raisons qui tiennent à des questionnements. Par exemple, on voit bien qu'il y a une pénurie de gamètes aujourd'hui et le risque d'avoir une sorte de marché procréatif, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays qui se créent, ce serait, je pense, terrible. De même qu'il y a un risque de sélection aussi des embryons, il y a un risque qui concerne l'anonymat pour l'accès aux origines. Au bout du bout, comment est-ce que en reconnaissant un droit à mener un projet parental pour des couples de femmes, est-ce qu'on ne le ferait pas demain pour des hommes avec la GPA ? Donc ce sont des questions qui sont en tout cas suffisamment graves pour qu'elles puissent être posées et puis que le débat se déroule le plus sereinement possible.
Voilà Bruno Retailleau, ses arguments devant Jean-Gabriel Bourgeois. Dans quelques instants, nous recevons le politologue Jean-Daniel Lévy pour évoquer les sondages et peut-être le retour de l'Ancien Monde.
Le journal des sports.
Rebonjour Julien Froment.
Rebonjour.
Le PSG, qui est évidemment au cœur de la bataille des Football Leagues, du côté du terrain, en revanche, tout va bien.
Hein. Oui, victoire hier 2-1 contre Lille grâce à la paire Mbappé-Neymar, buteur et passeur l'un pour l'autre. 12e victoire d'affilée en entame de championnat. Record de Tottenham datant de 1960 battu. Une respiration pour le PSG, vous l'avez dit, embourbé dans les Football Leagues dont on a parlé un peu plus tôt dans le journal. Et aussi par l'écart de conduite du milieu de terrain Marco Verratti, l'Italien. Le jeune conducteur a été contrôlé dans la nuit de mardi à mercredi en état d'ébriété. Cellule de dégrisement et suspension de permis en vue. Le petit Thibaut a fait amende honorable devant la presse.
J'ai fait une erreur. Je pense qu'il m'a servi d'expérience, il m'a servi pour le futur, pour dire à mes enfants de ne pas le faire. Et c'est pour ça. Mais je suis le premier que je suis déçu. Je sais que j'ai l'image de respecter, j'ai l'image du club, j'ai l'image pour tous les gens qui viennent ici à l'estade. C'est pour ça que quand je suis sur le terrain, j'essaie toujours de donner plus de 100%. Je me ferai pardonner comme je pourrais.
Marco Verratti, milieu de terrain parisien, par ailleurs qui a été très bon hier face à Lille. Et cet écart n'a pas plu à l'entraîneur Thomas Tuchel. Je dois contrôler le vestiaire. Marco a de la chance. Ça s'est passé bien avant le match. Sinon, il aurait été suspendu lui aussi de cette rencontre.
L'histoire ne dit pas s'il avait une Maserati, le petit italien. À voir avec un petit A de conducteur débutant. À l'issue de la 12e journée aujourd'hui, 6 matchs au programme,
oui,
Julien.
17h, Lyon-Bordeaux. À 20h, le multiplex à suivre avec Lionel Rousseau. On aura un œil bien sûr sur Monaco qui se déplace à Reims. Les Monégasques, un 19e de Ligue 1, sont toujours en quête d'un premier succès sous l'ère Thierry Henry. Autre rencontre, Caen, Rennes, Dijon, Nîmes, Nice, Amiens, Strasbourg, Toulouse. Et puis à l'étranger, en Angleterre, le choc de la 11e journée à l'Emirates Stadium. L'Arsenal d'Unai Emery face au Liverpool de Jürgen Klopp. Coup d'envoi à 18h30. Enfin, en Espagne, les premiers pas en Liga de Santiago Solari, l'entraîneur intérimaire du Real Madrid. Ce sera donc au Bernabéu face à Valladolid.
Et puis signalons en Italie que Naples, adversaire de Paris dans quelques jours, 5-1 contre un petit club, Empoli, mais Paris est prévenu. L'autre événement, c'est évidemment ce choc Federer-Djokovic. Et là, on parle de tennis. Merci.
Ouais, le Suisse s'est facilement défait du japonais Kei Nishikori en 2-7, 6-4, 6-4. Et il retrouvera donc le Serbe Djokovic en demi-finale. Alors, il n'avait pas prévu d'aller aussi loin, ce ne devait être qu'un tournoi de reprise. Le voilà désormais dans le dernier carré, avec un seul mot à la bouche, profiter du moment.
De mon côté, je vais essayer de prendre ce match un peu plus décontracté, le plus décontracté que je peux, pas me mettre trop de pression, parce qu'en fait, l'idée, c'était de venir ici, de peut-être jouer un ou deux matchs, voilà, trois maximum. Tout d'un coup, je suis en fait assez frais pour une demi-finale contre Novak. Alors forcément, je me réjouis énormément, parce que j'adore jouer ici à Bercy, et ça me manque de jouer devant les spectateurs ici.
Roger Federer au micro de Christophe Lamarre. Le programme des demi-finales, 14h, Dominic Thiem face à Khachanov, et ensuite donc le choc Federer-Djokovic. Enfin, François, la route du Rhum avec J-1 avant le grand départ.
14h demain.
Exactement.
On sera avec Corinne Boulou dans Tout Terrain. Restez bien à l'écoute. C'est un formidable reportage et il y a du monde sur les remparts de Saint-Malo au moment où nous parlons. Saint-Malo, où il fait beau.
Absolument, seule pluie de notre après-midi, eh bien, sur la Corse et sa façade est uniquement. Ces pluies qui vont se renforcer et devenir localement orageuses dans la soirée. Les nuages qui sont également plus nombreux sur la Côte d'Azur avant de gagner le golfe du Lion. Du Pays Basque au Massif Central, à la moyenne vallée du Rhône, en Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine et Alsace, l'ambiance est lumineuse, même si ce n'est pas le grand bleu que l'on retrouve partout ailleurs sur la moitié nord. Les températures de cet après-midi sont assez homogènes, entre 8 à Saint-Étienne et 18 à Manosque, 11 annoncés à Chartres, Châteauroux, Lons-le-Saunier, Lyon et Paris, 12 degrés à Grenoble, Blois et Orléans, 13 à Mont-de-Marsan, Nancy et Strasbourg. Ces valeurs qui vont évoluer positivement demain puisqu'elles seront dignes par endroit du mois d'avril. Ce sera le cas notamment dans le sud-ouest.
Beau à quelques exceptions, vous l'avez compris. Merci Valérie. Dans un instant, ce sera l'invité du journal, Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et d'opinion d'Aris Interactive. On va parler de Macron plus bas et on va parler des revenants.
Il est 12h49, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous François Claus et avec votre témoin de la semaine.
Notre témoin de la semaine, Jean-Daniel Lévy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département politique et opinion chez Aris Interactive et je souhaitais vous entendre, mais c'est parti d'une réflexion personnelle. J'allume la radio cette semaine, j'entends qui ? Alain Juppé. Je zappe sur une autre radio, j'entends Ségolène Royal et je zappe sur la troisième radio où j'entends que Emmanuel Macron est au plus bas. Je voulais avoir votre opinion, que se passe-t-il aujourd'hui entre ce nouveau monde qu'on nous annonçait politique qui s'effrite, s'effondre dans les sondages et cet ancien monde, parce qu'on pourrait rajouter les 16 pages de Sarkozy dans le point, François Hollande de librairie en librairie qui balance ses flèches vénéneuses, l'ancien monde, celui qu'on pensait révolu, est-il en train de renaître de ses cendres aujourd'hui en France ?
Et il renaît dans une certaine mesure où effectivement il y a un écho médiatique qui leur est accordé. Il renaît dans le sens où évidemment on voit bien François Hollande arrive à vendre des livres, où Ségolène Royal est considérée comme étant une hypothèse crédible pour une liste à l'initiative du Parti Socialiste dans le cadre des prochaines élections européennes, dans le cadre où Alain Juppé est présent dans un mouvement politique qui s'appelle Agir, notamment dans le cadre des prochaines élections européennes, et puis effectivement où Nicolas Sarkozy peut avoir 16 pages dans un grand hebdomadaire. Est-ce que dans un même élan, il y a une appétence de la part des Françaises et des Français à les voir revenir jouer un rôle de premier plan ? C'est vrai pour certains, mais c'est pas vrai pour tous.
Donc c'est plus compliqué, plus compliqué que ça.
Donc ça n'est pas nouveau monde ou ancien monde uniquement.
C'est donc qu'on est quand même dans une situation d'offre politique singulière en ce moment. On sent qu'il y a peu finalement de réponses aux demandes aujourd'hui des Français ou des Français sont perdus dans les réponses qu'on leur propose.
Aujourd'hui, il y a deux questions qui se posent de la part des Français à l'égard des responsables politiques. Première question, êtes-vous capable de dresser un état de la situation que connaît le pays ? Êtes-vous en capacité de pouvoir décrire notre vie quotidienne ? Et la réponse est non, de manière majoritaire, quels que soient les responsables politiques ou les formations politiques en place. Et deuxième question,
allez-y.
Êtes-vous en capacité de pouvoir nous proposer des solutions qui permettent de nous dire que demain, on vivra mieux en France que la situation que nous connaissons aujourd'hui ?
Ça veut dire que la politique, aux yeux des Français, n'apporte plus les réponses au quotidien. Et ça justifierait également cette abstention récurrente et qui monte.
Ça veut dire que les Français sont un peuple très politique qui aspire du politique la capacité à pouvoir peser sur le cours des choses et que aujourd'hui, indéniablement, à leurs yeux, notamment sur leur première des priorités, à savoir la réduction du chômage, qui est une priorité qui existe en France depuis la fin des années 70, aucune formation politique de droite ou de gauche n'y est parvenue durablement à pouvoir répondre. Donc dans ce contexte-là, il y a aujourd'hui un doute qui est un doute certain et qui est notamment repose aujourd'hui sur les épaules d'Emmanuel Macron, où il avait indiqué que il menait une politique qui était une politique volontariste, qu'il développait à peine arrivé à l'Élysée une loi qui s'appelle la loi travail et qui aurait des effets notamment sur la reprise de l'activité d'un point de vue économique, sur la réduction du chômage. Et ce que disent les Français, c'est qu'aujourd'hui, non seulement cette loi-là n'y est pas parvenue, mais qu'ils n'entendent pas de contre-propositions crédibles de la part des autres acteurs politiques.
Et c'est ce qui expliquerait aujourd'hui qu'une majorité de Français serait prêt à accepter un pouvoir dit fort, voire autocratique et qui nous rapprocherait de certains pays, de l'Italie à la Hongrie, du Brésil aux États-Unis.
Alors, ils n'ont pas dit complètement autocratique. Hein. Et puis, en plus,
j'exagère voilà. En le disant. Voilà. Mais bon, l'ombre planer sur cette formulation.
Oui et non. Enfin, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où on attend un pouvoir politique centralisateur relativement fort, où la notion d'égalité apparaît comme étant absolument centrale et elle est incarnée notamment par le président de la République, et où on a pu voir dans un même élan les limites d'un pouvoir politique qui disait « je sais, je maîtrise seul, sans tenir compte soit des corps intermédiaires, soit des remontées qui peuvent être exprimées de la part des Français ». Les Français étant pas exempts de contradictions, ils peuvent dans un même temps dire qu'ils souhaitent un pouvoir politique fort et en même temps critiquer Emmanuel Macron sur sa gestion qui parfois est perçue comme étant trop autoritaire du pouvoir. Et vous avez parlé de revenants politiques, ou en tout cas de représentants de l'ancien monde. S'il y a aujourd'hui au sein de la droite une personne qui est une personne plébiscitée, il s'agit indéniablement de Nicolas Sarkozy, et qui n'est pas reconnu comme étant quelqu'un qui avait vraiment, qui prenait le temps de consulter les citoyens, les Français, ou les corps intermédiaires.
Même s'il fait en partie amende honorable dans cette longue interview du Point, qui est essentiellement consacrée à l'ordre du monde.
Absolument.
On sent un Nicolas Sarkozy très, très impliqué dans la géopolitique, mais il y a quelques petites phrases comme celle-là où il fait amende honorable sur la communication, notamment j'ai été un peu loin, dit-il.
Absolument, mais en fait, on voit bien qu'il y a en France, en tout cas de la part de la droite à l'égard de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, une forme de regret de ne plus le voir aujourd'hui exercer des responsabilités. Alors on sait qu'il avait
échoué... De considérer sa défaite presque illégitime face à François Hollande.
Ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que dès le début, les électeurs de droite ont considéré qu'à 15 jours près, ça passait entre guillemets. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, remontant dans les sondages jour après jour, il aurait dû normalement, entre guillemets, gagner l'élection présidentielle. À mon avis, la situation est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, ce qu'ils disent, c'est qu'il avait donné une fierté à être de droite et qu'il donnait une fierté à être français en tant que tel, et que même s'il a échoué, on s'en rappelle, au cours de la dernière primaire à pouvoir être candidat pour la droite à la présidentielle, qu'il y a une forme de légitimité qui est accordée à l'ancien président de la République, peut-être pas pour les solutions, mais au moins, comme c'était le cas dans le cadre de l'article du Point et de l'interview du Point, à pouvoir dresser un état du monde.
Dans Jean-Daniel Lévy, dans ce climat, est-ce que c'est une singularité française, ce rapport un peu névrotique qu'on a à nos dirigeants et au pouvoir? On veut un président qui agit. On prend Sarkozy, quelques semaines après on le brûle. On veut un président normal, on prend Hollande, on le brûle. On veut de nouveau un président qui incarne la fonction et au bout d'un an, il est là au fond du trou. Ce rapport qu'on a à nos dirigeants, est-ce que c'est une singularité française? Là, vous parlez, vous disiez, on est un peuple qui aime la politique, deux qui est plein de contradiction.
Et un pays qui s'est enorgueilli d'avoir créé une révolution française et qui avait, à l'époque, effectivement, coupé des têtes et pas des moindres. Donc dans ce
voir contexte-là... le film Le Peuple et son Roi, signé de M. Scheller, film européen, mais qui accessoirement est un très bon film et qu'on peut lire au regard de la situation d'aujourd'hui.
Qui s'inscrit dans ce contexte-là. Alors après, les registres sont différents. Aujourd'hui, une des critiques qui est effectuée à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est le fond de sa politique et la gestion du pouvoir qu'il peut avoir. Ce qui n'était pas exactement le même registre que celui qui était exprimé soit à l'égard de Nicolas Sarkozy, soit à l'égard de François Hollande. François Hollande, il y avait un doute sur sa capacité à pouvoir être président de la République. Nicolas Sarkozy était critiqué sur un aspect qui était un peu plus bling-bling et dévalorisation de la fonction présidentielle. Aujourd'hui, il y a une étiquette de président des riches qui est accolée à Emmanuel Macron, qui apparaît comme étant un peu orthogonale par rapport à son projet politique initial, et que dans ce contexte-là, on est face à des Français qui disent « nous souhaitons un président de la République qui nous mène un peu plus de justice sociale dans le cadre de son projet politique ».
Et ce sera évidemment tout l'enjeu pour lui, notamment dès dimanche soir, puisqu'il entame une tournée mémorielle, mais qui sera aussi très politique, dans l'Est de la France pour 4 jours. Très intéressant, et merci à vous, Jean-Daniel Lévy, d'être venu nous éclairer sur cette actualité politique très mouvante en France. Je rappelle que vous êtes le directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive.
Et dans un instant sur Europe 1, tout terrain, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte de 13h à 14h. Toujours avec vous, François Claus. Mais avant, on fera un petit point sur l'info. A tout de suite. Europe 1.